Voilà, bonsoir à tous et bienvenue à Agnès Van Ubong et surtout à Gilles Leroy qui nous vient ce soir pour un entretien. Agnès Van Ubong enseigne à l'Université de Genève en études genre. Elle est une spécialiste de littérature, elle a écrit sur Jean Genet, elle est elle-même en train de se mettre à l'écriture et va peut-être publier quelque chose. Et puis Gilles Leroy qui est donc pris Goncourt en son temps et qui nous a qui est là pour dormir avec ceux qu'on aime et que l'on se réjouit beaucoup d'entendre tout à l'heure. Voilà, donc la MRL est très heureuse de le recevoir ce soir. Maison de Rousseau de la littérature, donc, est en train de se constituer dans ce bâtiment qui est la maison natale de Jean-Jacques Rousseau. Merci de votre présence et à vous la parole. Merci beaucoup.
Vraiment la maison natale de Jean-Jacques Rousseau.
C'est vraiment la maison natale de Jean-Jacques Rousseau.
Non,
il est passé par là.
J'aimerais remercier la MRL, en particulier Sylviane Dupuis, ainsi que les études genre, partenaires de la soirée. Gilles Leroy, vous avez accepté de faire le voyage jusqu'ici, dans ce lieu donc, historique, puisqu'on apprend que Rousseau est... Ah oui. Voilà. Bah, votre présence est une chance, donc merci vraiment d'être là ce soir. Je vous présente en quelques mots. Gilles, vous êtes né en 58. Vous avez exercé le métier de journaliste. En 95, vous quittez Paris, vous vous installez dans le Perche, dans un hameau du Perche, où vous vivez toujours d'ailleurs, pour vous consacrer à l'écriture. Gilles, vous êtes l'auteur d'une quinzaine de romans et de pièces de théâtre. Je citerai notamment Les Maîtres du Monde, Machine à sous, L'Amant russe, Chant secret, et bien sûr Alabamaçon, pour lequel vous avez reçu le prix Goncourt en 2007. Dans ce roman, vous vous glissez dans la peau de Zelda Fitzgerald, et vous racontez le destin tragique de cette femme qui est l'épouse de Francis Scott Fitzgerald, en mêlant à la fois des éléments biographiques et imaginaires. Lors de la remise du prix Goncourt, Bernard Pivot salue votre style flamboyant. Françoise Chandernagor parle d'une qualité d'écriture extraordinaire. Voici la première question que j'ai envie de vous poser, Gilles, très simple. Quel regard portez-vous sur votre parcours et quel chemin vous a mené vers l'écriture ?
Ah ben c'est pas simple du tout. Le regard que je porte sur mon parcours, je me regarde pas beaucoup vivre et je me regarde pas beaucoup agir, donc j'ai pas vraiment de vision d'ensemble. En général, c'est plutôt les autres qui me renvoient un miroir, enfin une image, qui me tendent un miroir et me renvoient une image de ce que je fais. Et je sais, par exemple, que je suis... je peux parler des influences, par exemple, de mon travail, qui sont parfois plus ou moins conscientes, d'ailleurs, mais avec le temps, j'ai pris conscience de ce qui vraiment m'influençait. Et là encore, c'est parfois, ce sont des amis qui le découvrent à votre place. Par exemple, je pense à mon ami, l'écrivain et éditeur René de Secati, qui un jour m'a dit, je sais à propos de quel de mes livres assez récents, il m'a dit, bah, en fait, quand on lit ton livre, on se croirait dans un film de Douglas Sirk. Et il se trouve que j'ai beaucoup regardé les films de Douglas Sirk dès l'adolescence, et que j'avais un peu oublié que je les avais tant regardés. Et voilà, et je crois que cet ami a raison, que ça infuse comme ça dans mon travail. Et un jour, un autre ami qui lui est philosophe m'a dit, en fait, quand même, il y a un trait, même aussi différent que sur mes romans, il y a un trait commun, il y a quelque chose de commun qui les traverse, qui est que tu poses à travers tes personnages la question de comment s'en sortir de telle ou telle situation. Mais c'est vrai que l'enjeu, en général, dans mes livres, c'est comment s'en sortir. Voilà, et puis l'autre partie de la question, c'était comment j'en étais arrivé à écrire. Je sais pas, j'ai toujours écrit, mais c'est un peu ridicule de dire ça, mais je suis retombé en faisant des classements, des archivages, il n'y a pas longtemps chez moi, je suis tombé sur des lettres d'enfants que j'envoyais à mon grand-père, que j'aimais beaucoup, et qu'il avait gardé, Et c'est ça, je me suis amusé parce que il y a une lettre, je dois avoir 7 ans, 8 ans, et il y a une lettre où je l'engueule parce qu'il n'a pas un téléphone depuis très longtemps, il habitait loin. Et donc je suis sans nouvelles et j'ai une vraie scène de dépit, quoi, de dépit amoureux. Et ça m'amuse parce que sans le savoir, je mets en branle comme ça dans cette lettre toute une série de figures de rhétorique assez sophistiquées en fin de compte, mais sans savoir que ce sont des figures de rhétorique. Alors voilà, je crois que je crois qu'il y avait cet amour de la langue et puis l'amour des livres, quoi. J'étais vraiment un gosse qui passait sa vie dans les livres. À tel point que ça énervait d'autres personnes. Mais voilà, j'avais ça. Pour moi, la vraie vie, c'était la vie qui était dans les livres. C'était pas la vie qui était dehors.
D'ailleurs, à propos de livres, on va surtout parler de Dormir avec ce qu'on aime, votre dernier roman. Et c'est un livre assez intimiste, hein, ton qu'on retrouve également dans Gandhi ou encore L'Amant russe. Est-ce que vous pourriez parler un peu du projet de ce livre ?
J'ai l'impression que je fais aussi bien des romans, de la fiction pure, on va dire, je ne sais pas ce que ça veut dire pure, mais bon, de la fiction, que des romans vraiment à forte teneur autobiographique, sinon des autofictions. Et c'est jamais prémédité, mais j'ai l'impression que ça fait partie d'une sorte d'équilibre chez moi. Je crois que ça, oui, ça alterne aussi bien l'un et l'autre genre depuis en tout cas une bonne quinzaine d'années. J'adore écrire, j'adore créer des personnages ou écrire des personnages et me glisser par exemple dans la peau de Zelda Fitzgerald avec Alabama Song. C'était extraordinaire parce que c'était me glisser dans la peau d'une femme, certes, mais d'une américaine. Qui était d'un autre siècle que moi, enfin, et d'un autre milieu que moi. Donc, il y avait une sorte d'extrême étrangeté à essayer de faire revivre cette femme. Et ça fait partie de mes bonheurs de romancier, quoi. Mais régulièrement, c'est comme si j'avais besoin de reprendre un rendez-vous avec moi-même et de parler de moi. Parce que je crois que c'est ça aussi l'écriture contemporaine, enfin, que on est amené peut-être plus qu'autrefois comme sujet à se décrire. Et alors je sais qu'il y a des gens qui ne trouvent pas ça bien, l'autobiographie, qui trouvent que c'est s'exposer, s'exhiber et tout. Moi je pense que c'est complètement faux, parce que je crois que j'ai dit autant de choses de moi en me déguisant, en me glissant dans la peau de Zelda que j'en dis quand je prétends dire je. Donc c'est pas si simple que ça, l'écriture. Mais voilà, c'est un jour, ça m'a beaucoup frappé. J'avais vu Solers et à un moment, il avait eu cette phrase qui me semblait une grande limpidité. Et à propos de ça, justement, de l'autobiographie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et Solers disait, il faut dire sa vie tant qu'on la vit. Et j'ai trouvé que c'était une parole très, très, à la fois très simple, très sage et contemporaine. Je dis pas moderne parce que je me méfie du mot moderne, mais en tout cas très contemporaine. Et c'est pour ça que je ne me pose pas la question, quoi. Je viens de terminer un livre qui ressemble beaucoup plus à Alabama Song ou encore à Zola Jackson. C'est à nouveau sur un personnage de femme et de femme connue, puisque c'est inspiré très directement de la vie de Nina Simone. Et j'y éprouve autant de plaisir et de joie qu'à me raconter. L'ennui quand on. Oui, quand on raconte quelque chose qui nous est arrivé, qui nous est si proche, c'est qu'après, il faut en parler. Que l'écrire, c'est une chose, mais après, en parler, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Parce que quand on écrit, on tient ça à distance, ça devient un roman, de toute façon, au bout d'un moment, ce « je », c'est plus moi du tout. Hein, donc, mais après, quand il faut en parler en public, notamment, ou dans des émissions, et où on confond tout, le réel, le privé, enfin bon, ce qui est dans le livre, ou ce qui est dans la vraie vie, enfin, là, ça devient compliqué. C'est pour ça que, régulièrement, je m'évade vers d'autres personnages.
C'est une question un peu rebattue, mais finalement, comment arrive-t-on à se débattre entre le réel et la fiction ? Comment faites-vous ?
Je me bats pas. Non, je me bats pas, je prends le bas. Je dis toujours que je suis un écrivain du réel dans la mesure où j'ai besoin de, j'ai besoin d'une matière donnée pour écrire. Je n'ai pas une grande imagination. Enfin, j'en ai, bien sûr, sinon je ne pourrais pas écrire de romans. Mais je ne suis pas un écrivain fantaisiste. Je ne vais pas chercher des intrigues abracadabrantes. Et c'est pour ça que faire des romans, écrire des romans à partir d'un matériel donné, que, aussi bien la vie de ma mère que j'ai pu écrire dans Grandir, ou la vie de mon père que j'ai pu écrire dans Machine à sous, c'est ce que j'appelle du matériel donné. Mais la vie de Zelda Fitzgerald était tout autant. Ce sont des choses, ce sont des décisions déjà écrites, donc il n'y a pas d'intrigue à inventer. Il y a juste le plaisir de la langue à les faire revivre, quoi. Et je sais plus quelle était votre question, pardon.
C'était se débattre.
Ah oui, non, je me débats pas, parce qu'en général, je parle d'un sujet qui est donné, que j'ai sous les yeux au moment où j'écris. Donc non, j'ai pas de problème avec ça.
Est-ce qu'on peut tout dire?
Non.
On parlait d'autofiction, d'autobiographie.
Non, on peut pas tout dire. Moi, je suis. Bon, moi, je. C'est vrai que maintenant, quand on dit autofiction, on pense à 2-3 personnes. Enfin, en tout cas, chez les auteurs français, on pense à quelqu'un comme Angot, notamment, qui déballe tout sur les gens qu'elle connaît, sa famille et tout. Moi, c'est pas du tout ce que je fais. Quand je dis que je fais de l'autofiction, je prends bien garde à protéger les gens dont je m'inspire dans mon roman. Donc, c'est vraiment plus du roman autobiographique que de l'autofiction. Mais non, on peut pas tout dire. Tout n'est pas matière à faire du roman, je crois pas. Moi, il y a des tas de choses qui me hantent dans la vie, des gens, des personnages, qui pourraient devenir des personnages, mais dont je me refuse à en faire des personnages, justement, parce que voilà, ils ont rien demandé. Mais c'est vrai que là, notamment dans Dormir avec ce qu'on aime, j'ai fait tout un travail de transposition, quand même, pour que les personnes dont je parle, et surtout le jeune homme dont je parle, ne puisse pas être inquiété dans sa vie, puisqu'il est dans un pays où les choses ne sont pas évidentes.
Peut-être pourriez-vous lire quelques extraits pour que le public entende votre voix.
Je vous lis les deux premières pages. Je savais que ça arriverait un jour et que ce jour culminerait en intensité sur l'échelle des événements de ma vie passée et future. Quelque chose s'était rapproché, à portée de main, que je pouvais toucher en rêve et qui me rendait heureux. Une chose qui n'était pas le succès, mais cette catastrophe concomitante et lumineuse qu'on pourrait appeler, je crois, le dernier amour. La reconnaissance arrivait tard, je découvris, à peine fut-elle là, que ces manifestations ne m'intéressaient pas. À 20 ans peut-être, l'âge où l'on se rêve unique et champion du monde, ça m'aurait amusé, troublé, excité. À 48 ans, c'était autre chose. En fait, d'amusement, une ironie désenchantée, un sentiment de dérision qui recouvrait tout, les êtres que je croisais comme les lieux que je traversais. Tout m'était étranger dans ce nouveau personnage affublé de mon nom. C'est une chose de s'entendre dire qu'on est au sommet d'une carrière d'écrivain. C'en est une autre d'accepter qu'on n'a pas épuisé toutes ses chances d'aimer et d'être aimé. Et c'est cela qui m'arrivait, ni plus ni moins. Je descendais d'avion, ni plus ni moins, le jour déclinait, ce 2 février 2008, lorsque, par surprise, par ruse presque, tant j'étais égaré, vulnérable, étourdi dans l'immensité vide de l'aérogare, je suis tombé amoureux pour la dernière fois de mon existence. D'abord, j'aperçois ce jeune homme, tête rase, de l'autre côté du mur vitré des douanes. Il tient devant lui une pancarte qui affiche mon nom, ce nom de moins en moins incarné, ainsi que celui de la maison qui me traduit dans le pays. « Bonjour, dit-il en un français parfait. Je suis Oscar, le chargé de communication de votre éditeur, et je vous remercie, au nom de tous les gens de notre maison, d'être venus jusqu'à nous. » Il s'empare de ma valise, je remercie à mon tour. À côté d'Oscar, un grand gars se tient, longs cheveux, lui, très noir, attaché dans la nuque, même âge sans doute, d'une beauté qui me fait bafouiller, quand il me serre la main entre les deux siennes et sourit d'un air d'extase comme si, de toute sa jeune existence, aucun rendez-vous n'avait été aussi attendu et capital que la rencontre d'un auteur français dans un hall d'aéroport. « My name is Marion. Sorry, I don't speak French. » Je laisse mes mains dans les siennes, un instant qui soudain paraît long. Le regard d'Oscar sur nous, impatient. C'est ensuite que Marianne dit, toujours en anglais, « Je suis le libraire qui organise le débat et la lecture ce soir. J'ai invité deux grands écrivains du pays, un philosophe et un romancier, qui parlent français et vous ont lu. Je ne vois que son sourire large, ses yeux noirs intenses, son front haut, si intelligent. Sa main repose à présent sur mon épaule, légère et tiède comme une aile, tandis que nous rejoignons le parking à grandes enjambées. Nous sommes en retard sur le programme, a prévenu Oscar, le communicant, et ce mot de programme me scie aussitôt les jambes. Toute fatigue me revient, la nuit trop courte, l'avion pas à l'heure et le vol chahuté. »
En lisant ce texte, je trouve qu'il se dégage une certaine mélancolie. Vous écrivez notamment « C'est toujours l'or en fusion dans son iris, toujours le gris mélancolie, le gris fichu dans les yeux qui ont tendu. Plus tard, parlant de Marianne, il dira « Ne sois pas triste, vois comme la vie te sourit. » Il dira « Tes yeux ont le gris du ciel quand on aime. » Quelles sont pour vous les émotions, les états et les couleurs de la mélancolie? Est-ce qu'on est mélancolique de la même façon à 20 ans ou à 50 ans?
Je ne sais pas. On est plus ou moins disposé à la mélancolie, on va dire. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu mais dès l'enfance, quoi. Et que je ne confonds pas avec la nostalgie, parce que je ne suis pas quelqu'un de nostalgique, mais je suis quelqu'un d'assez mélancolique, effectivement. Donc je ne sais pas si ça... Bon, ça n'a pas dû s'arranger avec le temps. Hein. Je ne sais pas, c'est... C'est une sorte d'état, mais je trouve que c'est une chance, parce que il y a quand même des moments de grâce dans la mélancolie. C'est une aventure assez solitaire, et où il y a beaucoup de grâce. La mélancolie, pour moi, souvent, c'est quand je suis dans mon jardin, quand j'ouvre la porte de mon bureau et que je regarde mon jardin. C'est des instants comme ça, mais ça peut être très proche du bonheur, bizarrement, la mélancolie. C'est pas du tout antinomique, au contraire, ça se frôle, c'est voisin.
C'est un roman sur l'amour et l'errance. Vous avez lu quelques extraits. On a compris que l'écrivain narrateur vit un dernier amour, qu'il écrit de façon extrêmement tendre. Et d'ailleurs, se dégage de votre écriture en général une certaine tendresse qui se ressent par la cadence de la phrase, par le rythme et la ponctuation. Comment écrit-on la douceur? Comment écrit-on la tendresse? Est-ce que ça existe?
Comment ça? Je ne sais pas. C'est un état aussi, ça. Il y a des aspects dans mon œuvre qui sont très très violents. Il y a aussi beaucoup de violence. Pas tellement dans ce livre. Quand même, si, je crois qu'il y a 2-3 épisodes qui sont assez raides. La douceur, c'est un. C'est un état de... En tout cas, c'est quelque chose que je souhaitais pour ce livre-ci, quoi. Parce que je voulais pas qu'il y ait de pathos, qu'il y ait de drame, comme ça. Alors, c'est très facile, une histoire d'amour entre deux personnes que tout sépare, non seulement l'âge, mais le milieu, mais les occupations, qui vivent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Ça a été très facile de développer comme ça un moment sentimental. Et donc, j'ai préféré parler de cet état, oui, justement, de douceur, un peu, ben justement, qui rejoint la mélancolie, en fait. Hein. De tristesse pas désagréable. Quoi. On sait que c'est le mi-temps de la vie. C'est comme ça. Faut l'accueillir aussi, en fait. Il faut accueillir tous les âges de sa vie. C'est ce que je dis toujours. Mais parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais non, faut, c'est ce que j'essaie de dire dans ce livre, ouais. Une sorte de prise de conscience de quelqu'un qui va avoir 50 ans, quoi.
Le thème de l'amour que vous évoquez occupe une place extrêmement importante dans l'ensemble de votre œuvre, et en particulier la difficulté d'aimer. Dans ce « Dormir avec ce qu'on aime », on peut lire « Tout le monde a un roman d'amour, tout le monde a son roman, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. L'amour est un roman facile, une farce à gros tirage, un éternel seller. » Et plus loin, on peut également lire « L'amour n'est pas un roman facile, non. » C'est difficile de décrire l'amour, de décrire la passion amoureuse. de parler de l'amour vieillissant, du corps vieillissant. En lisant, je me demandais quel roman d'amour avez-vous préféré? Est-ce que vous avez pensé à des choses en particulier? Dans quel livre aimez-vous lire l'amour?
Ben justement, cette citation-là, tout le monde a un roman, je crois bien que ça sort directement d'Anna Karenine, de Tolstoï, qui est de toute façon mon roman préféré absolu sur Terre, mais qui est aussi un grand, grand roman d'amour quand même. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais Anna Karenine, c'est... Enfin, moi, ça me... Je suis époustouflé par cette écriture. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'écris à partir du réel, et de données réelles. Et dans les données du réel, il y a bien sûr cette partie de nous qui est la part aimante, la part désirante. Et l'amour est évidemment quelque chose de... je ne sais pas comment font les romanciers qui... arrive à ne jamais parler d'amour. C'est curieux. Je ne dis pas qu'il faut parler que de ça, c'est très ennuyeux si on parle que de ça, mais ne jamais en parler, c'est quand même très particulier. Moi, je pourrais pas, je sais pas, ça me, je pourrais pas ne pas en parler, parce que je ne peux pas éviter de parler de la mort.
Là, c'est un amour particulier, c'est l'amour d'un homme qui a 48 ans pour un jeune homme. Est-ce que c'est subversif pour vous? Est-ce que ça pose des questions sur le corps,
Ben oui, ça pose toutes ces questions souvent le livre. Non, c'est pas subversif dans la mesure où c'est pas comment vous dire prémédité. Hein, c'est quelque chose qui, comme ça s'est passé dans ma vie, donc à Bucarest, m'est tombé dessus et auquel je croyais qu'à moitié, quoi. Mais c'est pas subversif dans la mesure où j'en tiens pas un discours. J'en fais pas un discours de tout ça. Il n'y a pas de discours qui sont très politiques ou je sais pas ou moral autour de ça. Non, c'est juste cette expérience, on la vit. Est-ce qu'on la vit jusqu'au bout? Est-ce qu'on interrompt avant de trop souffrir? C'est toutes les questions qu'on se pose, je crois, quand on aime et même quand on aime quelqu'un qui a son âge. Hein, c'est quand même des questions qui sont récurrentes dans l'acte d'aimer. Et c'est vrai que là, la différence. La différence d'âge oblige ce narrateur à se retourner quand même sur ce qu'il a fait de sa vie et c'est voilà, c'est un, je parle quand je parle dessus, je parle toujours d'un double ravissement, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire de quelqu'un qui est d'abord ravi à sa vie habituelle parce qu'il est dans ce succès que j'ai connu au moment du concours et qui a fait que j'ai passé 3 ans, presque 4 ans, à courir le monde. Et donc, on est arraché à soi, on est ravi à soi dans sa vie, tout dans ce qu'elle a plus quotidien. On ne voit plus ses amis, on voit plus ses chiens, on voit plus sa maison. Et puis, il y a cet autre ravissement qui est au milieu de tout ça, de ce tourbillon, de tomber amoureux, alors qu'on n'y croyait vraiment plus depuis très très longtemps. Quoi. C'est cet effet de surprise. Donc, il y a... Oui, c'est vrai qu'il y a une grande sidération dans le livre. C'est pour ça que vous y avez ressenti de la douceur. C'est peut-être cette sidération qui fait que, à un moment, cet homme ne sait plus du tout où il est. Quoi. Il se réveille dans les chambres d'hôtel sans savoir dans quelle ville il est. Et le seul lien, finalement, qui fait garder son identité, c'est cet amour, en fait. C'est les mails échangés avec ce jeune homme. Les rares rencontres, les quelques coups de fil.
Vous parlez du concours. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie?
Ça a changé tout à fait l'attitude de mon banquier. je dors beaucoup mieux. Je m'inquiète plus du coup de fil de 9h du matin. Non, je dis ça mais parce que c'est bête, c'est prosaïque, mais c'est vrai. C'est important dans une vie d'écrivain où très souvent on court quand même après, enfin, la plupart d'entre nous courent après l'argent, c'est-à-dire la vérité comme elle est, et après des années de vaches maigres comme ça, de difficultés, ça faisait du bien de respirer sur ce plan-là, quoi. Et après, bon, il y a le, Sur le coup, c'est pas du tout à ça qu'on pense. On est évidemment très touché, très, très ému par cette chose qui tombe dessus quand même. C'est un côté un peu écrasant aussi, d'être moi qui menais une vie quasi monacale dans ma campagne, mon bureau, mon jardin, mes chiens. Tout à coup, je me suis retrouvé pris dans un tourbillon. Ça a changé la vie, mais dans une parenthèse, et ça, j'ai bien compris que ce ne serait qu'une parenthèse quand même, parce qu'après, on rentre chez soi, on retrouve son monde à peu près inchangé quand même. Mais non, ce qui est bien, c'était d'avoir rencontré tous ces lecteurs, qu'enfin, tout à coup, c'est comment vous dire, votre livre, il est incarné quoi, par tous ces gens que vous rencontrez. C'est chouette.
Est-ce qu'il y a un talent particulier pour supporter les prix littéraires ?
Bah, je sais pas. J'ai quand même l'avantage d'avoir eu un tel prix à 48 ans plutôt qu'à 25 ou 28, c'est que on est quand même peut-être un peu moins sensible aux sirènes et j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je fasse attention. Et que je ne me laisse pas berner comme ça, que je me fasse pas trop d'illusions quoi, sur les choses. Mais la chose la plus saine que j'ai pu faire, c'est que le lendemain du prix, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai écrit. Donc, quand on me demande de donner des conseils à des gens qui vont avoir des distinctions pareilles, je dis toujours. Et qui surtout ils écrivent, quoi, qu'ils n'arrêtent pas, parce que c'est le piège, c'est le danger de devenir un machin mondain comme ça, qui oublie quand même que le nerf de la vie, c'est le travail quotidien. Puis sérieux.
On va revenir un petit peu à votre livre. Le rapport au figure parental est présent dans tous vos livres. Dans votre roman, d'ailleurs, vous parlez d'un éditeur que vous nommez Wagner, et vous dites la chose suivante: Wagner me fait penser à mon père, généreux, flambeur et secret comme lui. Et vous partagez avec Marianne, donc votre amant, dites-vous, sa bonne éducation, cette dignité ouvrière que l'on enseigna enfant et qui lui fut infusée tout autant. Je ne dévoile rien si je dis que vous avez été aimé, choyé par vos parents. C'est l'un des sujets de votre roman Machine à sous, qui raconte la pauvreté du clan maternel et la richesse du clan paternel. La question des origines, elle est omniprésente également. Vous êtes né à Bagneux, vous en parlez dans ce texte. Est-ce que vous pourriez parler de la question de la filiation, du rapport aux parents ?
C'est vrai que j'ai beaucoup écrit sur eux. Ils sont même dans des livres où apparemment ils ne sont pas convoqués eux-mêmes. Il arrive qu'ils surgissent. Vous venez de le dire vous-même. Tout à coup, cet éditeur roumain, effectivement, me faisait penser par ses attitudes et tout, me faisait penser à mon père. Et comme j'ai perdu ma famille, j'étais très très jeune quand j'ai perdu toute ma famille. Et ça prend hormis la douleur, ça donne un prix énorme à la filiation et à la famille, justement, de se retrouver orphelin jeune et sans frère, sans cousin, j'ai même pas de cousin ou de cousine, mais donc vraiment un peu seul au monde. Et ça donne un prix énorme à ce qui a été perdu. Et je pense que et puis franchement, je suis fier de mes parents, en fait. Je suis fier de. C'était des gens très, très modestes, très humbles par rapport aux gens que je connais maintenant, aux gens avec qui je vis maintenant. J'ai l'impression d'être un transfuge. Enfin, un journaliste parisien qui a écrit un article de jour en disant que j'étais un transfuge social, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Oui, moi je viens d'un milieu vraiment très très modeste. Mais je sais gré à cette famille qui donc pour une grande partie était de famille d'ouvriers, de petits employés, d'artisans, enfin, de m'avoir enseigné deux, trois choses morales très importantes pour être quelqu'un de bien, quoi, pour vivre sa vie en étant quelqu'un du mieux possible qu'on peut l'être. On n'est pas des anges, bien sûr, mais ça, je sais que parfois, aujourd'hui encore, à mon âge, si je fais quelque chose, si je dis quelque chose, il m'arrive de penser que bah tiens, mon grand-père ou mon père m'aurait gentiment repris, quoi, m'aurait dit bah non, ça c'est pas bien, tu fais pas ça, quoi, ça se fait pas. Et donc c'est des gens qui sont là. Après, bon, l'étrangeté lorsqu'on écrit sur les gens qu'on aime, qu'on a aimés, c'est qu'on les transforme, le roman transforme, qu'on le veuille ou non. Le simple fait de créer des personnages, c'est plus, je dirais, mon père dans Machine à sous, quand j'ai fini le livre, c'était plus mon père, vous voyez ce que je veux dire. Et de même dans Grandir, ou dans Maman est morte, à la fin de ces deux livres, je ne pouvais pas dire que c'était ma mère, cette femme, dans le livre, quoi. Il y a un pouvoir de transformation, et c'est vrai que, je ne sais pas si c'est très sain comme travail de deuil, je ne sais pas ce qu'on dirait un psychanalyste, mais en fin de compte, d'en avoir fait des personnages de romans, ça a beaucoup apaisé le chagrin que j'avais de leur perte. Parce qu'ils existent autrement, et puis ce sont des personnages, quoi. Du coup ils restent un peu éternellement jeunes, puisqu'ils sont morts jeunes, ils restent éternellement jeunes. Mais c'est vrai que je peux pas tenir de discours sur la filiation, mais je pense que mon rapport est très singulier à cause de ça, à cause de cette contingence temporelle, le fait de les avoir perdus très, très jeunes.
Il y a un autre thème qui fait écho à la famille, c'est l'abandon qui est aussi très présent dans ce texte. Je vous cite. « Depuis, je sais que partir, c'est risquer une vie. Vous parlez d'une tortue que vous avez, Sissi, qui est morte tandis que vous trouvez en voyage, en Russie. Et vous écrivez la chanson. Depuis, je sais que partir, c'est risquer une vie. 2 ans plus tard, j'étais en Italie quand il me fallut rentrer à Paris pour y enterrer mon grand-père tant aimé. Et plus tard encore, c'est au retour de 2 longs mois passés au Japon que j'ai appris le verdict des médecins de ma mère, elle mourait. Alors, j'ai cessé de voyager. Partir fait mourir ce qu'on laisse, songer l'enfant en moi. »
C'est vrai, mais c'est pas des mots, hein. C'est vraiment... Et à un moment, j'ai arrêté de voyager. Je pouvais plus monter dans un train, je pouvais plus monter dans un avion. C'était phobique, quoi. Et c'est strictement vrai. À chaque fois que je partais en voyage, j'avais l'impression qu'au retour, j'allais perdre quelqu'un. C'était très désagréable. Et l'un des aspects positifs du prix qui m'a obligé à tellement voyager, c'est que, bon an, mal an, la phobie a disparu. J'ai pu être obligé de bouger d'apercevoir que non, on ne mourrait pas forcément quand je m'en allais. C'est même pas vrai, d'ailleurs, parce que je suis rentré d'Espagne dans cette tournée, ma chienne est morte. Et donc, c'est qu'à moitié vrai, tout ça.
Dans cet ouvrage vient à la fois la grande histoire, un ouvrage dans la petite histoire, avec ce couple de dictateurs, les Ceausescu. Et on voit que cette histoire d'amour et de mort double votre propre histoire d'amour. Pourquoi vous avez choisi cet arrière-fond politique? Est-ce que vous pourriez peut-être lire le passage en question avec...
Alors, c'est... Avec Marie l'adore.
Oui.
Oui. Alors dans mon livre, je fais de Ceausescu un ancien plombier, parce que ça m'arrangeait. Vous allez comprendre pourquoi. En réalité, il était cordonnier. Au départ, avant de faire toutes ces horreurs. Donc là, on est dans les Carpates, dans une villa qu'on appelle Villa du Protocole. C'est là où, comme souvent les dictateurs, on envoyait des dignitaires se reposer, on offrait des vacances, quoi, aux copains surtout. Sur fond d'or, un or flambant neuf que les 18 années passées depuis la Révolution n'ont pas terni, ses cheveux noirs enfin libres dévalent les épaules fines. étrangement délicate, presque trop légère pour les longs bras déliés. Le corps est fait pour la danse, une danse aujourd'hui. Dans les cheveux noirs, j'ai surpris hier, à la faveur du couchant sur le mont Zoltan, des reflets rouges vifs que j'ai cru quelques secondes être l'œuvre du soleil incendié, mais tandis que nous redescendions du pic de la Croix à travers les forêts de pins et les mille ruisseaux moussus que l'on saute en riant, j'ai vu dans la pénombre luire encore ce rouge dans les cheveux qu'un lien de velours noir tenait attaché sur la nuque. L'idée de la teinture m'a dérouté, comme une écharde dans la vision mentale parfaite. Puis je me suis habitué. En moins d'une minute, je m'y étais fait. Les amants sont ainsi, leur œil s'accommode, avec une incroyable souplesse et bienveillance, pourvu que le toucher demeure, le trésor des caresses, des étreintes, des morsures, des pénétrations, et le goût des baisers, des suctions, et l'odeur aliénante des aisselles, et le parfum perdu, toujours se dérobant des parties sacrées. Dehors, il y a la neige. Dehors, le ciel gris-rose des hivers. Au-dedans, il y a la buée, la fumée blanche de sa bouche, le givre, le baiser rond qu'elle dépose sur la vitre, la sueur de son corps qui se communique au verre et le verre ruisselle. Face à la baie vitrée, les longs et lourds cheveux rougeoient encore, orange puis feu dans le levant. Pour fumer sa première cigarette, il entr'ouvre un pan de verre sur la glaciale de la terrasse. Il regarde les pics enneigés sans la conscience du froid, sur son corps nu sans sel non plus de l'incendie, dans ses cheveux qui plongent en fusion les lourds panneaux d'or. C'était la manie architecturale du dictateur, sa signature. L'ancien plombier recouvrait de tonnes d'or les murs de ses nombreuses demeures à travers le pays, poussant la générosité et l'hospitalité jusqu'à en décorer les pavillons des invités de marque. Ici, dans cette villa du protocole du Mont Zoltan, nous nous abritons loin du monde, nous nous cachons, pour dire le mot exact. Il dit, je ne lui demande rien, il promet que la prochaine fois que je viendrai, il ne fumera plus. Il dit, je ne lui en demande pas plus, il jure que d'ici l'été, il aura appris le français. Assez de français, en tout cas, pour que je ne fasse plus semblant de ne pas comprendre son anglais lorsque les mots me troublent et me font baisser les yeux. « La mer Noire sera notre Éden, » dit-il. « Rien que nous deux est ta chienne, » dit-il. « Je l'aime déjà, » répète-t-il. « J'imagine quelque chose comme un cabanon en Camargue, un igloo, des pouilles, puis je n'imagine plus. » Il va chercher le laptop et revient joyeux, brandissant devant lui le plein écran où s'affiche une cabane ronde à toit de chaume pointu, cernée de roseaux et de joncs. « Telle sera la nôtre. » Il faudra songer aux leçons à la citronnelle, aux encens anti-moustiques. De tous les animaux de la terre, il n'en est qu'un seul, le moustique. Il a 26 ans, j'avais oublié. Lorsqu'il rit, il en a seulement 16, et j'ai envie de lécher sa bouche rouge, ses dents tachées de goudron déjà, ses oreilles au lobe un peu lourd. Parfois, j'ai seulement envie de le serrer dans mes bras, nu dans mes bras, tandis que j'aurais gardé par décence tous mes habits miteux, misérables, cache-misère, d'un corps défait, abandonné depuis longtemps. C'est dans le delta du Nadu que tous les oiseaux du monde se rencontrent. C'est là que leurs routes se croisent quelques jours dans l'année. Il a de nombreuses légendes sur le bout de la langue, pour chaque montagne, chaque château, chaque monastère. Il y a aussi qu'il est religieux et me met mal à l'aise à se signer dans les églises. Il n'est pas seulement d'un autre pays, il est d'un autre âge. Et cet âge qui nous séparera est d'abord ce qui nous rapproche. J'ai aimé vivre son âge. J'aime exactement les hommes à ce point de leur vie, quand rien encore ne les a si fort accablés que leurs yeux sont ternis. À son âge, j'avais moi aussi les yeux qui brillent, les photos m'en témoignent. Ce n'est pas que j'étais heureux à 26 ans, non, je n'étais pas heureux, pas particulièrement, pas du tout même. Seulement, c'était avant le malheur, avant que le malheur ne s'abatte sur moi, pour massacrer chaque minute, polluer chaque pensée, flinguer chaque cellule de mon corps. C'était avant la mort de tous ceux qui faisaient ma vie, mes parents, mes amis, comme une hécatombe express, une hécatombe à échelle privée. C'était avant l'abandon du monde, avant le procès de l'amour, avant l'alcool, avant l'errance et le désarroi. Il y a que je suis au bord du gouffre, au bord de tomber dans le cratère amoureux. Il y a que demain, ou plus tard après-demain, je serai fou de lui, éperdu. Vous voulez qu'on continue ?
Oui, page 70 peut-être. D'accord.
Voici donc le couple Ceausescu. En ce soir de Noël 1989, d'un coup, le masque s'est effondré. Le mensonge d'un vieux visage, arrangé pour paraître jeune et lisse, Ce mensonge est avéré et personne n'y peut plus rien. Elle est seule avec son mensonge, avec ses malles, ses valises, ses valets, ses policiers, ses polichinelles. La première dame est là, sans larmes, sans un tremblement, seule parmi les courtisans blêmes qui sursautent à chaque explosion au dehors, à chaque nouvel incendie devant les larges baies vitrées de sa suite présidentielle au 10e étage du palais du peuple. Dressée au milieu de sa chambre-bureau, la vieille, à cheveux orange clairsemé, gronde dans un talkie-walkie après les agents de sa garde, après le premier secrétaire du parti et après le surintendant du palais. Elle braille, voix cassée par l'effort, qu'on lui retrouve son époux disparu des écrans de contrôle et jamais réapparu dans le dédale du domicile conjugal. On avait fait appeler le palais de la presse à chaque étage, puis toutes les rédactions, centrales et provinciales. On avait envoyé les deux gardes privées, celle du tyran, celle de son épouse, inspecter chaque recoin, chaque cabinet de toilette, chacun des 15 ascenseurs. La vieille avait une trouille bleue des ascenseurs et ne montait à ses appartements que portée par un petit trône à crémaillère qui mettait bien une demi-heure pour les 10 étages, car c'était de conséquents étages, chaque salle du palais ayant au moins 6 mètres de hauteur sur le plafond. Puis on avait lâché les gendarmes hippomobiles à travers tout le parc, pas moins de 100 hommes et 101 chevaux, pour tenter de retrouver l'homme ravi aux caméras de surveillance. En vain, rien, on n'avait rien retrouvé, pas même une chaussure, pas même une empreinte dans la terre tendre du bois de bouleau, ni dans celle sablonneuse de la pinède et du bois d'eucalyptus. Parfois, elle croyait reconnaître le pas sec et nerveux du petit bonhomme. Elle intimait le silence aux bonnes et aux courtisans, tous tendaient l'oreille alors, mais le marbre vert des corridors était mauvais conducteur de bruit, et la vieille regrettait ce jour où un maudit architecte efféminé de Paris lui dit que oui, c'était possible, marbre vert et cabochon de cristal gravaient leurs initiales à elle et lui, l'homme de sa vie, le père du pays. « Tout est possible pour vous, majesté camarade. » Ne croyez pas qu'ils étaient seuls là-haut, au dernier étage du palais du peuple. Ils avaient de la visite. C'était la police secrète du pays, ceux-là même qui leur avaient mangé. Dans la main s'apprêtait à leur bouffer la main, le bras et le reste. Ils demeuraient discrets, vaguant dans les couloirs, flairant de ci, de là, attendant la curée. Elle le savait et accéléra les préparatifs. La vieille possédait 1000 fourrures entassées dans les chambres froides du dernier étage, des parures diamants, la plupart jamais portées, enfermées dans les coffres forts du sous-sol et quelques 500 paires de chaussures exposées dans ce qui aurait dû être la bibliothèque des appartements privés du palais et changea de destination avec la révolution culturelle, le jour où l'on brûla tous les romans et tous les poèmes pour ne plus garder que la philosophie et les sciences. Personne n'a réussi à dénombrer exactement la garde-robe. Dans l'inventaire auraient figuré toutes les maisons de la haute couture française, pas moins de 600 tailleurs Chanel rapportés à les camériistes et les teinturiers, pas moins de 1000 robes du soir et 2000 robes de cocktail, lesquelles maisons françaises ne s'embarrassaient point de politique et dépêchaient depuis Paris auprès de la richissime cliente en forme de tonneau, son petit corps ramassé, oui, et dystrophié à 30 ans déjà, des mannequins de cabine, dont on lui faisait croire qu'elles avaient ses mensurations, et à peine le boudin dictatorial avait-il tourné le dos que dans la nuit, très vite, 12 petites mains, elles aussi accourues de Paris en secret, défaisaient les fausses pinces, raccourcissaient les ourlets et décintraient la taille afin que sa majesté camarade se vit mince et longue, comme dans ses rêves de mitinette. L'histoire ne peut dire si cette femme connue jamais avait été de ses miroirs. Sur ordre du plombier amoureux, l'architecte des appartements privés de madame avait passé commande à la prestigieuse maison de Saint-Gobain d'une trentaine de miroirs à léger tropisme vertical, en un mot, des glaces amincissantes.
Pourquoi les chefs fiscaux ?
Pourquoi ? C'est pas quelque chose que j'avais entièrement prémédité. Bon, bien sûr, dans ces villas du protocole, ben, j'ai eu la chance, histoire que j'en ai connu, il y a quand même quelque chose qui plane, qui est un peu lourd de cette histoire, de cette histoire roumaine, et même dans Bucarest, on sent quelque chose. Je sais pas combien d'années ont passé depuis 89, mais malgré ça, il plane encore quelque chose d'une dictature. Rien que sur le plan architectural, ces immenses bâtiments écrasants, ces avenues beaucoup trop larges. Il y a un côté comme ça qui fait penser aussi bien à l'architecture stalinienne ou mussolinienne. Enfin, il y a une architecture de dictature. Hein. Et donc on est quand même. On le sent, et puis il y a encore, bizarrement, à certains endroits de Bucarest, des morceaux de la ville encore un peu abandonnés, du projet fou de Ceausescu n'étant pas totalement terminé. Il y a encore des endroits un peu bizarres comme ça. Et puis ils se sont imposés, curieusement dans cette histoire très intime, parce que j'avais envie d'un contrepoint historique. Je crois que dans un roman, on a besoin d'histoire, quand même, d'histoire avec un grand H. Et ce contrepoint-là était intéressant parce que ce Marianne, dont le narrateur est amoureux, et dans lequel il se retrouve assez bizarrement, parce que même milieu, parce que même. Ils ont beaucoup de choses en commun en fin de compte, est un type absolument formidable, très plein de bonté, qui n'a pas un sou de méchanceté. Pourtant, c'est leur amour est condamné. Et c'est vrai que lorsqu'on découvre cette histoire des Ceaușescu, qui sont les pires criminels de l'Europe du XXe siècle, c'est étonnant, mais ces deux salauds se sont aimés jusqu'à la fin. C'est incroyable. Ce sont deux ordures. Et bien, ils ont été fidèles l'un à l'autre, ils se sont aimés jusqu'à la fin. Et quand on les a fusillés, ils ont demandé à être fusillés ensemble, à la caserne où ils étaient fusillés. Ils ont demandé à être enterrés ensemble, et ça leur a pas été refusé, mais ils ne peuvent pas le savoir. Et ça m'a beaucoup surpris. Cette histoire d'amour entre deux monstres. C'est fou quand même d'imaginer. Non, mais c'est. Moi, ça m'a beaucoup surpris. Je suis un peu naïf, mais je trouve ça frappant. Ces espèces d'amoureux de Penney qui ont les mains couvertes de sang, c'est très étonnant.
Ça crée une sorte de contre-pied assez étrange avec la parenthèse enchanteresse que vous vivez avec Marianne.
C'est pour ça que, du coup, quand j'ai eu ce sentiment à propos de ce couple, je me suis dit qu'il fallait leur faire un sort, quoi, qu'on dise. C'est-à-dire que. Il fallait vraiment que je raconte cette révolution, les dernières heures en fait, du couple au moment de la révolution, et que ça ferait effectivement un contrepoint noir, forcément noir et sombre à cette histoire, et qu'en même temps, à travers ça, on comprend aussi pourquoi le pays va si mal, parce que parmi tous les problèmes qui se posent à ce jeune homme, Marianne, il y a bien sûr le fait que ce pays qui a une tradition de plusieurs décennies d'obscurantisme ne tolère pas vraiment l'homosexualité. Et y a aussi le fait qu'ils sont pauvres, quoi. Les Ceaușescu ont vraiment essoré ce pays comme un citron, mais jusqu'à la dernière goutte. Et il n'y a rien, quoi. Les gens crèvent la dalle. Et pour comble de malheur, c'est les premiers qui ont pris la crise de 2008, c'est les premiers en Europe qui en ont souffert. La plupart des gens que j'ai rencontrés là-bas sont tous au chômage, par exemple. Et mon éditeur, il a fermé la maison d'édition, et tout est comme ça. Mais c'est comme ça que la grande histoire s'invite souvent dans votre petite histoire, parce qu'on est tous des animaux sociaux, des animaux historiques. Et on ne peut pas échapper à ce que les dirigeants nous font, de bien ou de mal. C'est comme ça que j'ai voulu, comme je vous disais, faire un sort à ce couple.
Revenons un peu sur votre pratique d'écriture. Quand on lit un roman, quand on lit vos romans, on entend mal peut-être. Comment se passe une journée d'écriture avec Gilles Laurent ? Comment vous travaillez votre écriture ? Comment ça se travaille ?
Alors, c'est assez simple. Je me mets au travail dès le réveil, en fait. Parce que je crois que c'est le moment où je suis le plus en possession de mes moyens, le réveil. Enfin, je prends le temps de boire un thé et de sortir mon chien quand même, je ne suis pas inhumain, mais très vite je me mets au travail jusqu'à épuisement des forces, quoi. Jusqu'à être trop fatigué. J'essaie d'écrire tous les jours. Parfois je n'y arrive pas vraiment, mais au moins j'essaie. Et puis voilà.
Il y a Duras dans son texte, écrire. Parle très bien de l'acte d'écriture chez vous, Aimé Duras, et j'ai noté cette citation. Il faut toujours une séparation d'avec les autres gens autour de la personne qui écrit les livres. C'est une solitude. c'est la solitude de l'auteur, celle de l'écrit. Pour débuter la chose, on se demande ce que c'était ce silence autour de soi. Et pratiquement à chaque pas que l'on fait dans une maison, et à toutes les heures de la journée, dans toutes les lumières, qu'elles soient du dehors ou des lampes allumées dans le jour, cette solitude réelle du corps devient celle inviolable de l'écrit. Dans cette période-là de ma première solitude, j'avais découvert que c'était écrire qu'il fallait que je fasse. J'en avais déjà été confirmée par Raymond Queneau, le seul jour de Queneau, cette phrase « Ne faites rien d'autre dans la vie que ça, écrire ». Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Bah, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. J'ai, à travers l'histoire de Fitzgerald dans La Mama Song, j'ai mis en scène un écrivain et je me suis mis en fait beaucoup en scène moi-même à travers Fitzgerald. C'est un livre sur la difficulté de partager la vie d'un écrivain, justement. Moi, je ne me rendais pas compte au départ quand j'étais jeune. Je me suis obstiné à essayer de vivre pas seul, quoi, de vivre en couple avec les gens que j'aimais. Et j'ai essayé une fois, deux fois, trois fois, puis j'ai compris que c'était pas pour moi, qu'il fallait pas. Que c'était ni pour moi, ni d'ailleurs pour la personne qui partageait ma vie, parce que j'ai appris que c'était très dur de partager la vie d'un écrivain au quotidien, justement parce que c'est ce qu'elle dit, Duras, quand quelqu'un écrit dans une maison, toute la maison est au garde à vous, quoi. Il y a un côté. Moi, ça m'est arrivé de partager ma vie avec quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, quand je rentre, si je suis parti quelques heures, quand je rentre, je sais si tu es en train d'écrire ou pas. Le simple fait d'ouvrir la porte, je sais. Je dis, oh là, ça devient grave quand même, mais je crois que c'est la vérité. Je crois que c'est la vérité, c'est qu'il y a une tension dont on ne doit pas se rendre compte soi-même, mais quoique si, parfois, on sent bien qu'on est très... C'est très tendu, tout ça, mais je crois que ça, oui, ça fait régner sur une maison une sorte d'autorité, enfin, je ne sais pas, c'est... Il y a des gens qui le vivent très mal, en tout cas, qui ne supportent pas ça. Et voilà, donc c'est vrai que il n'y a que les chats et les chiens pour supporter un écrivain, concrètement. C'est vrai. Il n'y a qu'un chat pour être à côté de vous, ou un chien à vos pieds, pendant que vous écrivez. Pour les humains, ce n'est pas possible.
C'est cette relation quasi tyrannique que vous décrivez entre Zelda Fitzgerald et puis Francis Scott Fitzgerald. Zelda qui cache ses manuscrits, Zelda qui se cache pour écrire parce qu'au fond son mari ne supporte pas qu'elle puisse faire.
Ça c'est un autre aspect, oui, c'est un autre aspect de leur couple, c'est que en plus là il y avait une rivalité interne, quoi, qui faisait que Scott ne voulait pas qu'elle-même écrive, elle voulait écrire, donc ça c'est encore une autre particularité. Et là ça peut devenir très très violent, effectivement, si les deux veulent écrire et qu'il doit y avoir qu'un écrivain à la maison, c'est compliqué, mais ça m'est jamais arrivé, ça, donc Dieu merci.
Vous avez peur de ne plus pouvoir écrire ? Qu'est-ce qui anime le feu sacré ?
Ah non, j'ai pas peur de ne plus pouvoir écrire, j'ai toujours, au contraire, je suis surtout... comment vous dire, embarrassé de choisir entre les projets de livres que j'ai, quoi. En choisir un plutôt qu'un autre, c'est toujours... en général, j'ai toujours deux projets de livres, et je les commence les deux, et puis je me dis, il y en a un qui va l'emporter sur l'autre. J'attends ce moment où un texte va être plus important que l'autre, et c'est comme ça.
Et là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, en ce moment, je viens de finir mon roman, donc je suis un tout petit peu en train de me reposer. Mais je suis déjà en train... Enfin, je dis ça, mais c'est pas vrai, puisque je prends déjà les notes du prochain.
Et on peut en savoir plus ou pas du tout ?
Alors, ce sera à nouveau un roman familial, on va dire, sur vraiment la rencontre de mes parents. Et ils seront très jeunes, donc ce sera...
Là, ce sera encore un roman d'amour.
Je terminerai cet entretien en posant la question de la place de l'écrivain dans la société, parce que c'est un aspect qui est important à la MRL. Quel regard portez-vous sur le monde contemporain? Est-ce que vous vous sentez concerné par ce qui se passe dans le monde? On parle par exemple en France beaucoup du mariage homosexuel, du droit à l'adoption, des droits communs. Est-ce que vous vous sentez concerné par tout ça?
Bien sûr, je suis concerné par tout ce qui se passe. Pas trop par cette histoire de mariage, pour les raisons que je viens en fait de vous exprimer, qui est que ça ne me concerne pas, quoi. Je ne me sens pas concerné. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas pour qu'il existe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que moi, je ne me servirai pas d'un droit que je ne veux pas que ce droit existe pour les autres. Je trouve que c'est très bien si ça correspond à une aspiration. Mais même au-delà de ça, je pense qu'il s'agit aussi un peu d'accepter le réel, d'accepter les choses, puisqu'elles sont là. Et moi, je connais des enfants qui sont élevés par des parents de même sexe, qui n'ont pas l'air d'être plus malheureux que les autres, mais ni plus heureux, ni plus malheureux. Mais ce qui serait bien, ce serait que le monde social leur reconnaisse un statut à ces enfants, et qu'ils ne soient pas montrés du doigt dans la cour de l'école comme ça. Ça arrive quand même drôlement souvent. Il y a toujours moi, quand on parle de l'état du monde, je suis toujours embêté vis-à-vis de ça, parce que en général on pose cette question là à Paris, et moi Paris j'y passe un cinquième de ma vie. Le reste du temps, je suis en grasse campagne, où tout est beaucoup plus rude que ça, ou beaucoup plus dur, où c'est très difficile d'être homosexuel. La plupart des homosexuels se marient et font semblant d'avoir font une famille, ça se passe très mal, évidemment. Enfin bon, bref. Donc il y a un tel décalage parfois entre ce que j'entends dire à Paris ou en ville, comme une ville comme Genève par exemple, ou à New York. Et que c'est pas. Oui, je m'intéresse au monde, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de mondes qui sont parallèles, vous savez, qui sont. C'est le décalage qui me surprend. Et là, on me demandait de signer justement hier, on me demandait de signer un article dans Le Monde contre les propos homophobes des gens de l'UMP. D'abord, j'ai dit qu'il y avait aussi des hommes politiques de gauche qui étaient homophobes, hein, c'était pas si simple. Et puis surtout, j'avais pas envie de signer un texte pareil, parce que le jour où on parlera d'une loi qui vise à protéger les enfants dans la cour de l'école, par exemple, les enfants homosexuels ou les enfants d'homosexuels, là, ça m'intéressera peut-être qu'on protège les enfants. Mais mettre la charrue avant les bœufs, si un gamin peut pas vivre sa vie, son identité sexuelle telle qu'il la ressent, ça lui fait une belle jambe de pouvoir se marier. Moi, je parlais avec une amie prof qui est prof dans ma campagne. Il y a 2 ans, un de ses élèves, un lycéen de seconde, s'est pendu dans la grange de ses grands-parents parce qu'il en avait marre que les gosses que ses camarades d'école l'insultent toute la journée et que les profs ne bougent pas, ne fassent rien. Là, je dis que c'est grave. Voilà. Là, c'est quelque chose qui me concerne. Je me sens très concerné par ça. Ce gosse, il n'en a rien à foutre du mariage. Hein, il n'est plus là pour pouvoir se marier. Donc, il ne faut pas. Très bien que les gens se marient, mais pour moi, c'est pas là que je vois l'urgence. L'urgence, je la vois vraiment dans les cités. Moi, j'ai grandi dans une cité ouvrière. Ben, je peux vous dire qu'on rase les murs quand on est au monde dans une cité ouvrière, et aujourd'hui c'est encore pire dans les cités à forte comment dire, représentation musulmane. Les gamins, les filles ou garçons qui sont homo, mais ils n'ont qu'une hâte, c'est de c'est partir, ils trouvent un moyen de partir. Et ils le font, dès qu'ils peuvent, ils partent. Ils partent de, ils quittent leur famille, ils quittent leur cité, parce que c'est juste invivable. Donc moi, je suis d'abord pour que les individus soient libres, aient le droit de vivre, et après, qu'ils puissent se marier, c'est bien. Mais d'abord que l'individu soit libre et respecté.
Merci beaucoup, Gilles. On pourrait laisser la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être, dans l'auditoire? Des mains qui se lèvent. Bon, il me reste à remercier très chaleureusement Gilles Leroy. Merci beaucoup. Merci infiniment.
Merci. Merci à vous.
Cette espèce de promiscuité, ou plutôt d'amitié, disons, entre guillemets, entre les animaux et l'écrivain. Donc c'est le cas du chien et le cas du chat. Je sais que dans la littérature, il existe d'autres exemples où des écrivains, des peintres, des artistes, des musiciens vivent en compagnie d'animaux. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qui approche un écrivain d'un animal, par exemple? Bon, un chien, c'est plus courant. Un chien, le chat peut-être un peu moins. Mais je sais que, par exemple, Colette avait beaucoup de chiens, Stendhal, pas Stendhal, mais Delacroix avait beaucoup de chiens, Balthus avait beaucoup de chats, et puis je peux encore en citer d'autres, Steinlein, etc. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que vous sentez de très proche, de très commun, de peut-être sous forme d'un amour assez particulier entre l'écrivain et l'animal.
J'allais dire que d'abord, il y a un grand avantage avec les animaux, c'est qu'ils ne parlent pas. Et que donc,
ils ne parlent pas.
Ils sont très présents, mais ne parlent pas. Donc déjà, ils ne vont pas vous troubler. Ils demandent très peu. Ils demandent très très peu, juste un plaid ou un coussin. Ouais. Et de temps en temps, une caresse. Quoi. Moi, je sais que Je crois qu'il y a, je crois que c'est lié à la solitude du travail, parce que il y a des moments quand même d'extrême solitude dans une journée, quand on se bat comme ça avec des personnages qui sont des fantômes, qui sont des êtres de papier, et qu'on se bat avec la langue, ce qui est encore une autre paire de manches. Il y a une sorte de grande solitude, par exemple, quelque chose quand j'écris, je deviens très frileux, j'ai froid au bout d'un moment. Alors que normalement, je ne suis jamais froid. Mais quand je travaille, au bout de quelques heures, je peux vraiment me sentir glacé alors qu'il fait très très chaud. Mais je pense que c'est une métaphore, en fait, c'est cette idée de grande solitude, ouais, qui fait qu'on peut se sentir glacé, comme ça, gelé. Et là, vraiment, moi, la présence de chiens, puisque c'est des chiens que j'ai plutôt, mais j'ai aussi des chats, à quelque chose qui doit être de l'ordre bêtement animal, justement, mais rassurant, comme un enfant est rassuré par un animal. Je crois que c'est de cet ordre-là, il y a quand même quelque chose qui vit autour de vous, voyez ça que je veux dire. Non loin de vous, il y a un machin chaud là qui vit et qui de temps en temps se rappelle, il faut que je sorte là, j'ai faim, j'ai soif. Donc on est quand même dans une sorte de rapport avec une sorte d'autre, quoi. C'est pas un humain, mais c'est un animal. Je pense que c'est pour ça. Il m'est arrivé quand ma chienne, ma dernière chienne était morte, je suis resté à peu près un an sans animal. C'était très étrange, le bureau sans animal. C'était quand même un peu désert. C'était très... Ça m'empêchait. Je travaillais, hein, c'est pas la question. Mais il y avait quelque chose qui manquait, quoi, quelque chose qui n'allait pas. Et je pense que c'est cette vie très silencieuse. C'est important. Et puis, je sais pas, c'est drôle parfois. parfois votre chien ou votre chat vous regarde et vous avez l'impression qu'il en sait plus long que vous sur ce que vous êtes en train d'écrire, mais évidemment c'est pas du tout le cas, mais il y a ce rapport aussi comme ça avec les yeux des animaux qui fait qu'on peut plonger comme ça dans ces regards et les trouver d'un seul coup très sérieux, très plein de sagesse et tout, alors qu'ils sont en train de penser à la souris qu'ils vont croquer dans 2 heures. Mais bon. C'est une bonne question parce que là j'ai laissé ce matin mon chien chez une amie. Je m'inquiète un peu quoi. Je m'inquiète un peu, mais j'en fais pas.
Un manque physique.
Non, je veux être. J'ai besoin d'être rassuré quand même. C'est-à-dire que j'envoie un mail ou je téléphone à. Non, à la personne qui. À la personne qui les garde, quoi. On a besoin d'être rassuré. Mais...